La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors pour cette nouvelle émission sur les créatrices au cinéma, nous nous trouvons toujours en Russie. La fois précédente, vous aviez fait la découverte des pionnières en la matière, actrices et réalisatrices, voire productrices, toutes deux nées au XIXe siècle, l'une nommée Olga Preobrajenskaya et l'autre Diana Karen. Et vous avez pu écouter la musique d'une compositrice russe née début du XXe siècle nommée Nina Vladimirovna Makarova. Alors j'ai lu que globalement jusqu'aux années 60, les femmes réalisatrices en URSS étaient plutôt nombreuses par rapport à d'autres pays, quoique les anglo-saxonnes, les américaines, si vous m'avez écouté, étaient aussi bien nombreuses. Alors aujourd'hui, faisons la connaissance de Nina Agadzanova Shutko, qui elle est née en 1889, encore à la fin du 19e siècle, et qui a, elle, écrit des scénarios de films, de propagande, de politique à orientation plutôt bolchevique. Alors c'est elle qui aurait écrit ou qui a écrit le synopsis, le canevas de ce qui allait devenir ce film réputé, célèbre, qui raconte une mutinerie sur un bateau, film intitulé « Le cuirassé Potemkin » qui date de 1925 et relate des événements qui se sont produits en 1907 et où il est question d'une mutinerie à cause de conditions de vie déplorables sur ce bateau pour l'équipage. Et c'est le réalisateur russe Sergei Eisenstein qui l'a produit. Or, j'avais déjà évoqué ce film dans une des émissions de La Voix des Arts, si vous vous souvenez. Alors, en ce qui concerne Nina Agadzanova, qui deviendra Shutko par mariage, c'est une révolutionnaire dans l'âme. Lorsque nous lisons sa vie, on a l'impression qu'elle ne s'arrête jamais de contester et de lutter pour ses idées, pour instaurer un nouveau régime pour la Russie. Déjà, elle adhérera toute jeune, à 18 ans, au Parti social-démocrate qui deviendra le Parti bolchevique. Et pour sa carrière cinématographique, elle aura un contact aussi avec ce que peut être le cinéma de l'époque, car il paraît qu'elle accompagnait au piano les films muets, ce qui veut dire qu'elle illustrait musicalement ce qui se déroulait en images. En parallèle, elle étudiait la musique, bien évidemment, mais aussi l'histoire et la philosophie. Donc, elle fera des études supérieures. Et comme révolutionnaire, puisqu'elle était révolutionnaire et révolutionnaire, elle restera, cela la conduira à être emprisonnée plusieurs fois et même à être envoyée en exil deux fois en l'espace de 10 ans pour propagande. Alors c'est une entité qui ne lâche pas le morceau, hein, si je puis dire. Elle partage en cela ses idées avec un alter ego du même acabit, et ça tombe bien, il deviendra son mari. Lui se nomme Kirill Shutko. Il était évidemment un révolutionnaire grandin, vous l'avez compris, mais c'était également un haut fonctionnaire culturel soviétique qui l'aurait d'ailleurs incité à travailler pour le cinéma, bon, ce qu'elle fera par la suite en écrivant des scénarios. Alors elle poursuivra ses activités politiques puisqu'elle deviendra même une espionne à la solde des bolcheviques et ce, après la chute du tsar en 1917. Quant à sa carrière cinématographique, bon, elle participera évidemment à un cinéma contestataire, révolutionnaire, où seront abordées les révoltes des couches populaires. En tout cas, c'est en 1924 qu'elle débute au cinéma comme scénariste. Alors, son premier scénario s'intitule « Les roses blanches », intitulé également « Derrière les lignes blanches ». Elle y raconte un peu son périple d'espionne lorsqu'elle infiltrait la garde blanche, c'est-à-dire les opposants au nouveau pouvoir au régime bolchevique. Elle a évidemment écrit d'autres scénarios. Bon, j'ai parlé du film « Cuirassé Potemkin ». Et par la suite de sa carrière, sa carrière prendra une autre tournure puisqu'elle enseignera l'écriture de scénarios pendant plusieurs années à l'Institut national de la cinématographie de Moscou. Et après cette vie partagée entre les luttes et revendications politico-sociales et le cinéma, elle décédera en 1974 à l'âge de 85 ans. Alors, puisque nous évoquons une révolutionnaire et cette époque troublée avec la chute du tsar, l'avènement du bolchevisme, la naissance de l'URSS, nous allons faire une petite pause musicale et écouter un chant militaire russe qui avait été composé en 1828 et dont les paroles avaient été changées pour s'adapter à tous les soldats russes de l'époque révolutionnaire selon leur position, ou du côté des rouges, les bolcheviks, ou du côté des blancs, les opposants. Pour l'heure, nous allons écouter en russe la version qui s'intitule « Chant du régiment Drozdovski ». Drozdovski était un colonel de l'armée russe qui, dans l'armée blanche, combattit les bolcheviks. Il était décrit comme un guerrier courageux qui ne ménagea jamais ses efforts pour défendre son pays, la Russie. Déjà lors de la guerre qui opposa la Russie au Japon en 1904, puis lors de la Première Guerre mondiale en 14-18 contre les Allemands, et qui se trouva pris dans la tourmente de la guerre civile, hein, comme tant d'autres, guerre qui fit couler également trop de sang, hein, comme toutes les guerres d'ailleurs, et provoqua à cause d'elle bien des malheurs. Et le colonel Drozdovski finit précocement et douloureusement sa vie, son existence, puisqu'il mourut au combat. Mais écoutons la musique et ses belles voix russes saisissantes, à mon avis, de beauté mélancolique.
Спасение народа, исполняя тяжкий долг. Спасение народа, исполняя тяжкий долг. Ночи бессонных и лишений на героев закаленных пуль далекий не страшил, на героев закаленных пуль далекий не страшил. Генерал Дроздовский смело шел с полком своим вперед, как герой он верил твердо, что он родину спасет, как герой он верил твердо, что он родину спасет. Видел он, что святая погибает под ярмом, и как свечка восковая угасает с каждым днем, и как свечка восковая угасает с каждым.
Шагом враг под натиском. рассветным русским флагом славу под себе сажал. И с трехцветным русским флагом славу под себе сажал.
Après ce chant poignant, revenons à nos créatrices pour rencontrer une autre actrice, scénariste et réalisatrice soviétique qui se fait remarquer. Il s'agit d'Alexandra Koklova, née Alexandra Sergeyevna Botkina en 1897 à Berlin et morte en 1985 à Moscou. Alors celle-ci est issue d'une famille assez célèbre et réputée, un père médecin, un grand-père entrepreneur et collectionneur d'art, fondateur de la galerie Tretiakov de Moscou, qui porte d'ailleurs son nom. Alors elle débutera comme actrice en 1916 dans de petits rôles. Et j'ai vu d'elle des images qui correspondent bien à ce que j'ai pu lire sur son jeu de scène, à savoir qu'elle avait rencontré le succès grâce surtout à l'expressivité de son jeu et de ses mimiques. Or, même si les images que j'ai vues d'elle étaient statiques, mais j'ai pu constater et me l'imaginer en mouvement. Alors, elle aura deux maris, tous les deux dans les milieux de la représentation scénique. L'un qui était comédien et metteur en scène de théâtre, nommé Constantin Kotloff, et le second, cinéaste et théoricien de cinéma, nommé Lev Kuletchov. Bon, ce qui indique qu'elle a pu avoir des facilités pour se familiariser avec ces milieux. Elle rencontrera d'ailleurs son second mari au sein de l'Institut National de la Cinématographie, qui avait été fondé, si vous vous souvenez, par Vladimir Gardine, le mari de la réalisatrice Olga Preobrajenskaya, que j'ai présenté dans l'émission précédente. Alors, qu'en est-il de la filmographie d'Alexandra Koklova ? Bon, à vrai dire, elle ne réalise que peu de films. Alors, deux sont déjà co-réalisés avec son mari, Lev Kuletchov. L'un est intitulé « Descente dans un volcan » daté de 1941 et l'autre intitulé « Nous venons de l'Oural » de 1943. Et pour ces autres films réalisés en solo, j'ai noté celui intitulé « L'affaire des fermoirs » ou « Le dossier à fermoir » de 1929, un autre intitulé « Sacha » dont elle a également écrit le scénario et qui date de 1930, et encore un autre intitulé « Jouer » daté de 1931. Sauf que je n'ai pas d'informations détaillées à vous fournir sur ces films, mais j'ai lu que sa filmographie se distinguait par son esthétisme et sa liberté d'expression. Et quant à la suite de sa carrière, elle la poursuivra dans l'enseignement de la mise en scène à partir de 1930 et elle s'éteindra donc à Moscou en 1985 à l'âge de 88 ans. Alors le cinéma en Russie, ce début du XXe siècle, c'est aussi le cinéma d'animation, même si la paternité revient au réalisateur russe Ivan Ivanov Vano, qui aurait lancé ce type de production dans son pays. Il n'en est pas moins vrai que mes recherches mettent en lumière l'investissement incontesté des femmes dans ce domaine. Alors qu'est-ce que le cinéma d'animation ? Vaste sujet qui englobe bien des techniques différentes que l'on regroupe sur ce même vocable et sur lequel nous n'aurons pas le temps de nous attarder ici. Mais globalement, le cinéma d'animation permet de donner vie à des objets, à des images dessinées, peintes. Il sera aussi nommé cinéma par image car il s'agit de mettre bout à bout des images fixes présentées rapidement pour évoquer le mouvement de la vie. Bon, le dessin animé en fait partie puisque la technique demande de dessiner chacune des images. Alors avant le cinéma et que l'animation ne passe sur pellicule, il existait déjà des stratagèmes, des techniques manuelles portant souvent des noms que je qualifierais de barbares, hein, tant ils sont compliqués et ce pour mettre en mouvement des images dessinées et représenter une scène vivante. Alors, ces images dessinées ou peintes ou des photos étaient plaquées sur des supports. Alors, c'était ou des disques ou des tambours qu'il fallait actionner pour que se crée l'illusion. Alors, je vais vous donner quelques noms, comme le thaumatrope, inventé en 1825, le phénakistikope, le zootrope, tous inventés dans les années 30. Et quelque chose d'amusant à fabriquer en papier, ce que j'avais expérimenté déjà, c'est le folioscope ou flip book en anglais, inventé dans les années 60. Alors là, il s'agit d'un petit livret avec des dessins sur chaque page et le fait de le feuilleter rapidement donne l'illusion du mouvement de la vie. Alors l'histoire du cinéma d'animation est un vaste sujet traité par bien des pays. En France, les Frères Lumière, fin 19e, pour le cinéma et ses débuts, se sont penchés sur le sujet. Et maintenant, l'ordinateur aussi permet de grandes possibilités. Et en ce qui concerne les techniques d'animation en Russie, j'ai lu que les pionniers en la matière étaient l'un, un danseur de ballet nommé Alexander Chiriaïev, qui entre 1906 et 1909 avait monté un studio. Alors, il a d'abord réalisé des croquis, puis avec des marionnettes façonnées à la main, il a créé des ballets qu'il a photographiés et assemblés image par image. Et l'autre est un biologiste de formation nommé Vladislav Starevitch, qui a mis en action des insectes embaumés et a raconté des histoires, ce qui lui a valu à partir de 1910 une décoration de la part du tsar Nicolas II de Russie. Alors avant d'aborder nos créatrices du cinéma d'animation, je vous propose d'écouter un chant russe intitulé « Les bateliers de la Volga » qui évoquerait les malheurs de tireurs d'amarres exploités par des patrons bateliers.
Ой, да, дай, да.
après ce chant magnifique et cette belle voix profonde, revenons à nos créatrices. C'est pour vous présenter deux sœurs, les sœurs Valentina et Zinaïda Bromberg, présentes ce début du XXe siècle pour participer et développer le cinéma d'animation. Alors, elles ont un an d'écart, Valentina née en 1899 et Zinaïda en 1900. Alors, les sœurs Bromberg font leurs premières expériences en 1925 en participant à un premier film d'animation intitulé « Chine en flammes », apparemment un film sur la révolution chinoise, et elles participent avec d'autres réalisateurs, scénaristes, animateurs, comme Ivan Ivanov Vano, l'un des premiers créateurs de films d'animation soviétiques russes, et Vladimir Sutev, qui lui écrivait des histoires, et notamment pour enfants. Alors, c'est avec 1000 mètres de film, 14 images secondes, d'une durée de presque une heure, que ce film est considéré comme le premier long-métrage d'animation soviétique, et même l'un des premiers dans l'histoire du cinéma d'animation. Alors, il faut dire que la plupart de ces créateurs-réalisateurs travaillaient souvent en collaboration les uns avec les autres, parmi eux des femmes et des hommes, des couples, notamment un frère et une sœur que sont les réalisateurs Nikolaï et Olga Kodotaeva. Et d'ailleurs, en 1928, les sœurs Bromberg participeront avec ce couple de réalisateurs-animateurs à un court-métrage intitulé « Le garçon de Samoyed ». Alors, il s'agit d'un film d'animation pour enfants et apparemment un film d'éducation politique. Et ce court-métrage est dessiné à la main avec une technique bien particulière qui sera reprise par une autre réalisatrice nommée Maria Bedarskaya pour son film réalisé la même année et intitulé « Les aventures des petits chinois ». Qui relate l'histoire de pauvres petits chinois maltraités qui s'enfuient et subissent quelques mésaventures. Alors, c'est un film d'une vingtaine de minutes que vous pouvez visionner sur YouTube. Vous verrez des poupées animées entrecoupées parfois d'images réelles. Enfin, quoi qu'il en soit, les sœurs Bromberg participeront en collaboration ou non à la réalisation d'une cinquantaine de films. Et elles ont créé à partir de 1936 surtout des courts-métrages, des dessins animés pour enfants, comme par exemple Le Petit Chaperon Rouge. Un autre couple également, Mirail et sa femme Vera Tsvekavoskaya, qui dirige un studio d'animation, produisent des films dessinés et en couleur. Alors eux, ils collaboreront en 1933 avec le musicien Dimitri Chostakovitch et un poète russe également, nommé Alexander Vedensky, pour la réalisation d'un premier long-métrage soviétique d'animation traditionnelle, qui est un opéra intitulé « Le conte du prêtre et de son ouvrier Balda ». Malheureusement, ce film aurait été détruit dans un incendie. Alors, cette industrie du film d'animation russe et soviétique reste dynamique malgré les événements politiques. À ce sujet, nombre de réalisateurs animateurs sont évacués en 1941, comme les sœurs Bromberg, à Samarcande, très exactement, lors de la grande guerre patriotique qui opposa la Russie à l'Allemagne nazie, et tous continuèrent leurs activités, même avec des films de propagande. Alors, une autre femme est à mentionner, c'est Alexandra Snetko-Blotskaya, qui elle est née en 1909. Elle fut aussi réalisatrice de films d'animation et a collaboré surtout avec Ivan Ivanov Vano. Elle a réalisé notamment des courts-métrages d'à peu près une vingtaine de minutes. De 1954 à 1974, j'ai relevé 17 films qu'elle aurait réalisés elle-même. Et j'ai noté qu'elle s'inspirait du folklore, qu'il soit russe, lituanien, kazakh, vietnamien ou oriental, et aussi de la mythologie grecque, entre autres. Tout ceci pour vous montrer que des femmes se sont bien investies dans le cinéma d'animation, qu'elles les réalisent seules ou en collaboration. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de l'émission, mais nous n'avons pas épuisé notre sujet sur les créatrices russes au cinéma, que nous retrouverons dans une prochaine émission de La Voix des Arts. En attendant de les retrouver, de vous retrouver, je vous remercie de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Thank you.